Pourquoi mais j'ai toujours le jeudi. Mais là, cette semaine, il n'y a pas de paracha. Cette semaine, c'est Kippour qui prend le dessus. Donc, on va s'arrêter un petit peu sur Yom Kippour. Yom Kippour, on sait bien que... On va commencer chez moi. On sait bien que Yom Kippour, le point principal de Yom Kippour, c'est la Teshuvah. C'est-à-dire, Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Et Yom Kippour, c'est le jour dans lequel on fait Teshuvah. Et d'ailleurs, dans la tefila de Yom Kippour, bon, les marasots de Yom Kippour, ils sont pas encore là, ils sont de l'autre côté, mais dans la tefila de Yom Kippour, voilà, on voit que ce qui revient le plus souvent, ça revient dans chaque tefila, c'est le fameux Al-Khet. Le fameux Al-Khet. On commence à le dire déjà depuis la veille de Yom Kippour. Depuis la veille de Yom Kippour, à Mincha de la veille de Yom Kippour, c'est d'ailleurs à Mincha de Yom Kippour, c'est le Al-Khet le plus important, puisque c'est là qu'on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. On fait teshuva sur toutes les avérotes qu'on a fait pendant l'année. Or, il y a une halakha qui dit que quand on fait teshuva, même à l'époque du Beit HaMikdash, où on faisait pas la tefila, on avait le sacrifice, on avait l'obligation, veid vadu et ratata ma chère Astou, on avait l'obligation de, enfin, en français, on traduit ça par confesser. D'accord? La confession. Moi, j'aime pas trop ce mot parce qu'il a été pompé, mais.
Il est lourd de sens.
D'accord? Mais en tout cas, traduction littérale de Huit Vadou, ça veut dire confession. Ça veut dire qu'on avait l'obligation de dire j'ai fait Talavera. C'est une manière de prendre conscience qu'on a fait Talavera et que c'est grave et qu'il faut faire Teshuvah. Donc la veille du Yom Kippour, c'est le plus important, parce que c'est là qu'on fait Teshuvah sur toute l'année. Et après, à chaque prière pour en recommencer le Halchet, c'est au cas où on aurait fauté depuis la dernière fois qu'on a fait le Halchet. D'accord? On relit encore une fois. Bon, c'est-à-dire que le plus important, c'est le premier qu'on fait qui est donc Mincha demain à. Ici à 14h30, ça veut dire Mincha de la veille de Yom Kippour. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit ce fameux Al-Khet. C'est très important de dire Al-Khet, et c'est pour ça que toute la communauté le dit. Contrairement au reste de la tefila, que bon, en général, c'est le Chazan qui dit, et nous on répond Amen, etc. Là, le Al-Khet, tout le monde participe activement au Al-Khet. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de la Torah, que quand on fait Teshuvah, Veid Vadou et Ratotam, on a l'obligation de confesser. Donc là, quand on dit le Al-Khet, c'est une manière de dire la avérote qu'on a fait. Toutes les avérotes, enfin en tout cas la grande majorité des avérotes, sont couvertes par le Halchet. C'est pour ça que si vous avez le temps aujourd'hui ou demain, avant de dire le Halchet, de lire la traduction en français, très bien.
Je ou nous,
d'accord,
le Halchet.
Nous.
Ah, c'est comme
c'est la communauté qui parle.
Oui. Nous avons
ouais.
Placé,
oui.
Nous avons
mais il faut le dire.
C'est nous.
Il faut le dire, le Halchet, il faut le dire.
Mais pourtant, c'est je me confesse.
Oui, ouais. Mais bon,
c'est on pas dit... nous, c'est pas.
On ouais, dans c'est oui, on dit nous individuel. Avons fauté. Oui, on parle toujours au pluriel. Pour dire qu'on ne demande pas que pour soi, on demande pour tout. On demande pour soi, pour sa famille, pour ses ancêtres, etc. D'accord? Donc ça, c'est le Halchet. Donc c'est pour ça que c'est très très détaillé. C'est bien si vous pouvez voir la traduction. J'entends la démarche de Rim traduit. C'est très bon de voir la traduction. Alors maintenant, je vais m'arrêter sur un autre point du Halchet. Dans la Gemara Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, il y a une marloquette. Il y a une marloquette. Est-ce que on peut se suffire du texte général du Halchet? Donc il y a un texte qui a été instauré. D'accord? Vous voyez le texte? Bon, le texte, on l'a ici dans la tefila. Est-ce qu'on peut se suffire du texte général du Halchet? Ou bien, est-ce qu'on a l'obligation de citer ses fautes en détail? Spécifiquement, de dire, voilà, j'ai fait ci, en telle date, etc. Enfin, si je me rappelle des dates. En tout cas, cette année, ça n'était pas sur ça. De dire explicitement et de manière détaillée ce qu'on a fait, la vérote qu'on a fait. Alors c'est une marloquette. Puisque, en théorie, pour faire teshuva, veid vadou. On doit faire vidouille. Vidouille, ça veut dire confesser. Donc, qui dit confession, dit qu'on ne doit pas suivre un texte qui est prédéfini. Au contraire, plus on détaille, plus on rentre dans les détails, plus on est spécifique, mieux c'est. Alors c'est une marloquette. C'est une marloquette dans le Talmud de Jérusalem. Est-ce qu'on peut se suffire du texte général, du Halchet, ou bien est-ce que... Ou bien, est-ce qu'il faut rentrer dans les détails? Rabbi Yehuda ben Betera pense que chaque personne a l'obligation, entre autres, mis à part le Halchet, de dire ses fautes, d'accord, de dire ses fautes oralement, individuelles. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva, il pense, il dit non, en tsarich lifrot et ma'asav, il dit, pas besoin de l'ifrot et ma'asav, ça veut dire de détailler la averot qu'on a fait. Alors, quel est le sens de leur marloquette, donc sur quoi ils sont pas d'accord? Tosfot explique la manière suivante. Tosfot explique la manière suivante, c'est dans le traité Gittin. Il explique, il dit, Pourquoi Rabbi Yehuda pense qu'un homme doit citer ses avérot dans le détail? C'est pas parce qu'il pense que c'était pas inclus dans la généralité. C'est inclus dans la généralité. Pourquoi il pense qu'il faut, les inclure dans le détail? Il faut les dire de manière détaillée. Il dit, là-bas, Tosfot, il dit qu'aider le horaire be'adam boucha. C'est pour amener un sentiment de honte chez la personne. Pour que, quand la personne a lu un texte prédéfini, il n'a pas vraiment honte. Parce qu'il dit, bon, tout le monde dit la même chose, on est tous à le dire, tout le peuple juif le dit, bon, je sens pas que ça me dérange. Alors que quand je veux lire mon propre texte, je vais dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va faire quelque chose. Je vais avoir honte de ce que j'ai fait. Et donc, automatiquement, puisque j'aurai honte, ma teshuva sera forcément plus profonde et plus sincère. Alors que Rabbi Akiva, il pense que non. Rabbi Akiva, il a un autre problème. Il dit, attends, les gens de la communauté vont te voir en train de faire teshuva. Et ils vont voir que t'es en train de faire ton alchet. Et on voit que ton alchet, il prend plus de temps que les autres. Et on se dira, celui-là, il a dû faire des avérotes pendant l'année. Ils vont dire, celui-là, on savait qu'il avait un peu d'Averos, mais il a dû faire les 400 coups par derrière. D'accord. De manière non ostentatoire, pour revenir à ce qu'on a dit ce matin. D'accord. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, explique Rabbi Akiva. C'est de ce fait qu'il explique Rabbi Akiva. Il dit, si une personne va faire Al-Khet, il va dire ses propres Averos, quelqu'un risque de l'entendre. Et bon, comme c'est privé, il va entendre. S'il va entendre, il va dire, celui-là, je croyais que c'était quelqu'un de sincère à qui on pouvait faire confiance, etc. En vérité, on peut pas lui faire confiance. Alors qu'en vérité, on sait qu'on a tous des avérotes. Seulement quoi? Quand tu vas entendre les avérotes d'un autre, tu risques de le voir dans notre œil. Et c'est pas le but du halret. Donc, ça c'est la raison, explique Tosfot, ça c'est la raison de la marloquette. À savoir, est-ce que c'est mieux de citer ces avérotes et donc pour arriver à une meilleure teshuva? Ou c'est plutôt préférable de ne pas les dire, de prendre un texte prédéfini pour ne pas faire honte et pour ne pas faire honte à celui qui voudrait être sincère. Alors en vérité, quand on analyse, Rabbi Yosef Engel qui a écrit un livre qui s'appelle L'Ekartov, explique la manière suivante. Il dit que pour moins de bruit s'il vous plaît, voilà. Voilà. Il explique, il dit qu'en vérité, pour comprendre le fond de la marloquette, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva, la question est la suivante. Est-ce qu'il faut privilégier le présent ou le futur? Et il explique là-bas qu'en vérité, c'est une question générale. C'est une question générale, c'est pas une question seulement sur Yom Kippour. C'est une question générale. Est-ce qu'il faut privilégier le passé, le présent ou le futur? Si on dit qu'il faut privilégier le présent, donc le présent, aujourd'hui, c'est Al-Khet, on est en train de dire le Al-Khet, aujourd'hui, on est Yom Kippour. Yom Kippour, il faut faire Teshuva. De quelle manière tu feras une meilleure Teshuva? Bah, bien sûr, en les disant totalement, de manière détaillée. Donc ça expliquerait celui qui dit, même si tu risques de te faire avoir, de te faire griller, d'accord? C'est pas grave, puisqu'on privilégie le présent, donc, tant qu'à faire, fais-le d'une manière que le présent soit de la meilleure manière possible. D'accord? Mais, c'est vrai que ce présent-là, peut causer du tort au futur. Pourquoi? Parce que celui qui va m'entendre, maintenant, bon, c'est un petit pour, il me dira rien. Mais après, par la suite, il me fera peut-être un peu moins confiance. Ou il me regardera d'un autre œil, etc. Donc là, c'est le futur qui pose problème. Et messieurs, s'il vous plaît, il y a trop de bruit là. Chut, s'il vous plaît, une fois c'est là. Ça y est. Merci. Ostentatoire. Donc, la marloquette, explique Rabbi Yosef Engel, la marloquette qu'il y a entre eux, de manière générale, entre Rabbi Yosef et Rabbi Akiva, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva, n'est pas seulement une marloquette sur Yom Kippour. C'est une marloquette générale. Est-ce qu'il faut privilégier le présent ou le futur? Est-ce qu'il faut aller être là constamment à se dire, je dois prévoir le futur, comment ça va être, etc. Ou bien non, on te dit, écoute, maintenant tu es là, aujourd'hui c'est Yom Kippour, il faut t'arranger pour qu'aujourd'hui ça se passe de la meilleure manière possible. Ça, c'est leur marloquette. D'accord? Et en vérité, quand on réfléchit, on voit que c'est deux manières, merci beaucoup. Bon, quand t'as donné le problème, chacun y a mis devant. On voit que c'est deux manières de voir les choses dans la vie. Il y a des gens qui sont des gens du présent. C'est-à-dire qu'eux, ils te disent, bon, maintenant on est là, il faut kiffer, il faut profiter du moment. Tu me dis de mettre de l'argent de côté, voilà. Ah non, profite maintenant, demain on verra. D'accord? Ça, c'est les gens qui vivent au présent. Ils disent que t'as de l'argent maintenant, t'as pas profité, demain on verra. Je donne un exemple pour l'argent, mais on peut appliquer ça pour toute la vie. D'un autre côté, il y a des gens qui vont dire non. Si tu vas profiter maintenant, c'est vrai que maintenant tu vas profiter, je suis d'accord avec toi. Mais demain tu auras peut-être besoin de cet argent, donc c'est pas bon. Et donc on voit déjà comment même dans la Gemara, on retrouve ces deux approches. Est-ce qu'il faut privilégier le présent ou est-ce qu'il faut privilégier le futur? On retrouve ça dans un autre endroit dans la Gemara. La Gemara Brachot, elle raconte, c'est écrit dans la Gemara Tanit aussi. Elle dit que il y avait là-bas une machloka entre les sages. Qu'est-ce qui est préférable de faire avec l'argent? Est-ce que c'est préférable d'utiliser l'argent tout de suite? Dès que tu as de l'argent, tu l'utilises, parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Ou bien c'est préférable de mettre l'argent de côté, bien sûr de manière judicieuse. D'accord? C'est-à-dire une partie dans l'immobilier, une partie, bon, etc. Quoi. Une partie on met de côté, une partie on met dans des biens mobiliers. Enfin, la Gemara là-bas, elle donne des conseils, d'accord, comment on doit placer son argent. Dans trois secteurs différents. Ne pas mettre tous les œufs dans le même sac, comme ils disent. Mais en tout cas, la question qu'elle se pose à Gemara à la base, est-ce que c'est mieux de profiter de son argent tout de suite? Ou est-ce que c'est mieux de le placer? De le placer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là-bas, la Gemara dit la chose suivante. Elle dit aujourd'hui, peut-être aujourd'hui c'est encore la même chose. Elle dit aujourd'hui qu'on sait que tout l'argent qu'on garde, il risque de partir d'un jour au lendemain par l'équivalent du fisc. D'accord? À l'époque, un beau jour, on pouvait venir chez vous en disant, monsieur, tout votre argent est réquisitionné. Pour rien faire. D'accord? Alors, c'est pour ça que la Vala Gemara dit, Khatov et Achol, Khatov Fushti, tu as de l'argent, attrape et mange, attrape et bois. Ça veut dire.
profite.
Bon, il faut quand même garder un peu, c'est la crise, mais. Mais en tout cas, on voit que c'est une marque-loquette qui dépasse d'aujourd'hui. C'est une marque-loquette qui date déjà depuis toujours. Et on voit comment il y a même une implication halakhique. À savoir, est-ce que je dois privilégier le présent et donc faire mon al-khet le maximum, le mieux possible, puisque le présent c'est un kippour, ou bien est-ce que je dois privilégier le futur? Alors, avec cette base-là, on peut rajouter encore un autre point pour expliquer la marque entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. Rappelez-vous, à savoir, est-ce que il faut faire le al-khet le plus détaillé, de manière la plus détaillée possible, ou bien est-ce qu'il faut se baser sur un modèle prédéfini pour tout le monde, comme ça on fait pas honte à personne. Rabbi Yehuda, il voit celui qui est en train de faire le vidouille, celui qui est en train de présenter sa confession, il le voit dans sa situation actuelle. Alors on va amener encore une autre raison. Il le voit dans sa situation actuelle. Il le voit comme une personne qui est en train de vouloir faire teshuva. Or, on sait très bien qu'une personne qui fait teshuva, on commence par faire teshuva par crainte, et après on fait teshuva par amour. D'accord? Je parle d'une personne qui est religieuse. Les gens en général qui ne sont pas religieux, c'est-à-dire qui ne sont pratiquent pas du tout, en général, quand ils font teshuva, bon, s'ils font teshuva parce que c'est le jour du Yom Kippour, certainement qu'ils feront teshuva par crainte, parce qu'ils ont peur. Mais si c'est des gens qui, c'est pas un jour du Yom Kippour, en plein milieu de l'année, ils font teshuva, en général, c'est par amour, parce qu'ils sont attirés, ça les intéresse. Mais bon, une personne après qui est devenue religieuse, qui est devenue traditionnelle, qui est religieuse toute l'année, vous remarquerez qu'on fait teshuva en général par crainte. La preuve, quand les gens font teshuva, Rosh Hashanah Yom Kippour, pourquoi Rosh Hashanah Yom Kippour? Jour du jugement. Ils ont, ils ont peur.
La trouille.
D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on commence à faire teshuva, à retourner vers Dieu, par la crainte. Pas par la haine. T'as entendu la haine? Si, qui a dit la haine? Personne, d'accord. D'abord, on commence à faire teshuva par la crainte. Et après, on voit comment progressivement, au cours du mois de Tishri, on va essayer de transformer ce sentiment de crainte en sentiment d'amour. Ça, on va remarquer qu'après Yom Kippour, tout de suite ça va changer. Après Sukkot, on va commencer à être joyeux et progressivement on va aller jusqu'à Simchat Torah, c'est le top de la joie. C'est fait exprès. D'accord? Il y a une structure dans le mois de Tishri, c'est pas comme ça par hasard. C'est qu'après on va essayer de transformer cette teshuva, ce sentiment de retour, on va essayer de le transformer de la crainte vers l'amour. Parce que vous comprenez bien que le niveau le plus important de la teshuva, c'est quand le plus haut de la teshuva, c'est quand une personne retourne vers un Kadosh Baruch Hu par amour, pas par crainte.
C'est pour toute sa vie.
Toute sa vie, bien sûr. Ça, c'est un principe qu'on peut appliquer dans toute la vie, même entre un homme et sa femme, entre parents et des enfants, qu'on démarre toujours.
Ça s'arrête après les faits.
C'est ça. Il faut toujours commencer à faire teshuva par crainte, parce qu'on a peur. Mais après, il faut s'arranger pour transformer ça en sentiment positif. Pourquoi? Parce que c'est très simple, parce que le sentiment de crainte, j'ai peur, combien de temps ça va durer? deux semaines, trois semaines, après ça part, c'est fini. C'est bien de trois semaines. D'accord? Alors quand on transforme ça en sentiment d'amour, là c'est bien. Avec ça, on va comprendre la marloquette, encore une fois, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda, il voit, rappelez-vous, Rabbi Yehuda a dit, il voit toujours le présent. Donc puisqu'il voit le présent, il dit maintenant la personne il est en train de faire teshuvah. Il est en train de faire teshuvah, donc certainement il fait teshuvah par la crainte. Donc puisqu'il fait teshuvah par la crainte, d'accord, il faut lui faire peur à celui-là. Comment tu vas lui faire peur? Il faut lui rappeler en détail la verrote qu'il a fait. Donc c'est pour ça Rabbi Yehuda il dit, non, il faut qu'il dise la verrote en détail, parce qu'il faut qu'il a peur. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva il dit non. Rabbi Akiva lui il voit, on a dit, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, il voit le futur. Et alors? Comme il voit le futur, il dit, le futur c'est quoi? À terme, tu veux faire une teshuvah par quoi? Tu fais une teshuvah par amour. Ça veut dire que, quand on fait une teshuvah par amour, le fait de dire en détail les avérotes que tu as fait, ça va pas rajouter grand chose. Le fait de dire les avérotes en détail que j'ai fait, c'est seulement pour me faire peur. Et puisque à terme, le but de la teshuvah, c'est les fêtes qui vont venir par la suite. C'est-à-dire, Sukkot, Imratan, etc. C'est-à-dire, c'est le fait, l'aspect positif qu'on va retrouver par derrière. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dit non. Pas besoin de rentrer dans les détails. Dis-le, il y a un texte pour tout le monde. Mais, dès que possible, il faut quitter l'aspect crainte, l'aspect négatif, pour rejoindre tout de suite l'aspect positif. Et vous remarquez que la halakha a été fixée comme qui? Hein? La halakha a été fixée comme qui? Comme Rabbi Akiva. Non. Comme Rabbi Akiva. On ne cite pas en détail. On cite un texte prédéfini.
Bah oui, mais c'est un détail quand même.
Mais pas du tout. Vous n'étiez pas là au début.
Mais là,
vous discutez.
Non, mais par exemple, tu dis, tu ne voleras pas dans ta tête.
Oui.
Si vraiment tu as commis ce péché-là, ça ne peut pas t'empêcher de penser. Que
oui, mais ça n'a rien à voir.
Sur les 50 ou 100 que tu cites, bon,
bien sûr, bien sûr. D'accord. Mais attention. Mais si une personne, il dit sur la faute que j'ai fautée en volant. En volant, mais c'est un texte que tout le monde est en train de dire à la synagogue. En plus, ouais. Il va le dire un
et
peu
lui
en chantant.
Il va se rappeler d'un cas précis.
Il va se rappeler, mais c'est...
Ouh, il a pas mis le poids
mais
dans
ça fera
balance.
Jamais autant d'impact que s'il va se rappeler, il va dire...
J'ai volé
un tel. Ah, là, tout de suite, ça...
Il va
oui, mais c'est pas la même chose. Verbalement, ça n'a rien à voir. Quand on... Bien sûr, vous avez raison.
Il ne commettra pas d'adultère. Si le mec qui a commis, il va pas...
C'est pour.
Mais la liste, c'est bon. La liste n'est pas exhaustive.
Il a interdit de commettre un adultère.
C'est pour. Je veux dire, c'est commis.
C'est pour.
La liste n'est pas exhaustive.
Avec un terme.
On le dit,
c'est ça.
Oui, c'est pas.
Si, les manchots, on les connaît quand même. On les a oubliés, peut-être.
Faudrait presque. Il pensait avant.
Vous savez qu'il y a des gens à l'époque, il y avait des vieux chassidim, ils avaient l'habitude, chaque fois qu'ils faisaient une avéra, ils notaient l'avéra sur un calepin.
Mais elle est volontaire.
Et la veille du Yom Kippour, ils sortaient ce calepin et ils regardaient le calepin.
Là, c'est plus.
Il écrivait ses fautes.
Ah oui.
J'oublie rien.
Le livre des comptes, comme ça. Ah.
Il avait un tas. Le 18 février.
Mais nous, c'est un bouquin. Mais nous, ça va être un bouquin.
Bon, quoi qu'il en soit, je reviens à notre sujet. On a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. Allez, messieurs.
On va faire un virabouk. Alors,
c'est la même chose.
Lundi, dans le Patar et Yahou, c'est beaucoup plus long le Khatati.
Non, c'est pas le Khatati, je parle pas du Khatati, je parle du Al-Khet. C'est un texte qui est défini déjà dans la Gemara. Donc ne cherchez pas, c'est un texte que j'ai défini. Donc encore une fois, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda, il voit le présent. Le présent, dans le présent, je suis en train de faire la teshuvah certainement par crainte. Les gens, ils ont peur en cherchant un équipour. Donc Rabbi Yehuda te dit, puisque c'est pour la peur, arrange-toi pour qu'elle ait le plus peur possible. Donc si tu peux lui dire qu'il dit ses propres avérotes et qu'il a encore plus peur, vas-y, mets-lui. Ah, à cause de ça, peut-être qu'après il va avoir honte, c'est pas grave, il faut qu'il ait peur. Pas grave. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Akiva, il dit non. Rabbi Akiva, il a toujours l'habitude, de manière générale, Rabbi Akiva, dans la Gemara, dans plusieurs endroits, on voit qu'il a toujours l'habitude de voir le fond des choses. Toujours. Il y a plusieurs exemples, bon, je vais pas rentrer dans les exemples. Mais Rabbi Akiva, toujours il voit le fond des choses. Une phrase très célèbre de Rabbi Akiva, Kol ma she'akadosh baruch hu oseh, leteva hu oseh. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Maintenant, quand il l'a dit quand son âne venait de mourir, son coq aussi venait de mourir. Enfin, on lui a. Voilà, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Ça veut dire qu'il l'a dit à un moment dans lequel il était en train de souffrir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit le fond des choses. Donc puisqu'il voit le fond des choses, Rabbi Akiva, lui, Rabbi Akiva, il dit, c'est vrai que maintenant, Rosh Hashanah Yom Kippour, on est dans un stade de crainte. Mais, Moi, je me dis que le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'arriver après à une teshuvah par amour, à une teshuvah positive. D'accord? C'est ça le but. Donc il faut quitter le plus vite possible l'aspect négatif. Donc il dit, ne t'attarde pas sur ça. Dis le texte prédéfini, bon, même si la crainte ne sera pas au top, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est dès que possible passer dans l'aspect positif. Donc là, on voit comment, on a essayé d'expliquer une machloquette, comment Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda, la machloquette qu'ils avaient correspondait à une manière générale de voir les choses. Et comme je vous dis, la halakha était fixée comme Rabbi Akiva. Ça veut dire que Yom Kippour, bien sûr que c'est un jour de Teshuvah, et bien sûr c'est un jour solennel, c'est pas un jour dans lequel on est en train de faire la fête, d'accord? Mais, faut pas oublier que Yom Kippour n'est pas un jour triste. D'accord? C'est un jour sérieux, c'est un jour important, et certainement qu'on fait Teshuvah par la crainte. Parce que bon, on se dit, attends, qu'est-ce qui va se passer? Qui vivra? Qui mourra? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette année j'aurai la parnasse? Est-ce que j'aurai pas? Certainement qu'il y a un sentiment de crainte. Mais, il faut pas se faire emporter par ce sentiment de crainte. D'accord? Faut pas se faire emporter par ce sentiment de crainte, il faut se dire que la crainte, si on a démarré par la crainte, parce que c'est plus facile, le Yetzer Hara, de lui parler par la crainte, de dire, écoute, tu t'améliores pas, les choses n'iront pas. Mais, il faut se dire que le but, c'est de quitter très rapidement ce sentiment de crainte, et tout de suite, passer au sentiment d'amour. C'est pour ça, vous remarquerez, que, il y a une halakha qui dit dans Shulchan Aruch, qui dit que le soir même du Yom Kippour, dès que Yom Kippour sort, tout de suite, il faut commencer à parler de la souka. On dirait qu'on a envie de...
D'évacuer au plus vite.
On a envie d'évacuer. D'accord? Bien sûr. Bien sûr, passer une mitzvah. Mais justement, c'est pourquoi? Justement pour nous montrer qu'on passe une mitzvah à l'autre. Et pour nous montrer que... On veut pas rester sur un aspect négatif. Bon, ceci dit, Baruch Hashem, maintenant, dans les synagogues, Yom Kippour, c'est plus un jour triste, c'est un jour où on chante. Et même quand on est en train de dire... c'est la traduction... Nous avons fauté devant toi. On est en train de chanter. D'accord? Parce que, on sait qu'on fait Teshuvah par crainte, mais dès que possible, on quitte le sentiment négatif pour reprendre avec l'amour. Et ça, ce qu'on gagne, c'est que la Teshuvah par amour, c'est une Teshuvah qui est durable. Le sentiment négatif, c'est un sentiment qui part, parce que j'ai peur. Combien de temps ça va durer? Alors que quand on passe à l'aspect positif, ça tient. Là, la Ha a été fixée comme Rabbi Akiva. Voilà. D'accord. Ma Khatima Tova.